Je m'en rendais compte et pourtant nous causions si peu. Tandis qu'avec madame de Villeparisis ou Saint-Loup, j'eusse démontré par mes paroles beaucoup plus de plaisir que je n'en eusse ressenti, car je les quittais avec fatigue. Au contraire, couché entre ces jeunes filles, la plénitude de ce que j'éprouvais l'emportait infiniment sur la pauvreté, la rareté de nos propos, et débordait de mon immobilité et de mon silence en flots de bonheur dont le clapotis venait mourir au pied de ces jeunes roses. Pour un convalescent qui se repose tout le jour dans un jardin fleuriste ou dans un verger, une odeur de fleurs et de fruits n'imprègne pas plus profondément les mille riens dont se compose son farniente que pour moi cette couleur, cet arôme que mes regards allaient chercher sur ces jeunes filles et dont la douceur finissait par s'incorporer à moi. Ainsi les raisins se sucrent-ils au soleil, et par leur lente continuité, ces jeux si simples avaient aussi amené en moi, comme chez ceux qui ne font autre chose que rester étendus au bord de la mer à respirer le sel, à se haler, une détente, un sourire béat, un éblouissement vague qui avait gagné jusqu'à mes yeux. Parfois, une gentille attention de tel ou tel éveillait en moi d'amples vibrations qui éloignaient pour un temps le désir des autres. Ainsi, un jour, Albertine avait dit « Qu'est-ce qui a un crayon ?» André l'avait fourni, Rosemonde le papier. Albertine leur avait dit « Mes petites bonnes femmes, je vous défends de regarder ce que j'écris. » Après s'être appliquée à bien tracer chaque lettre, le papier appuyé à ses genoux, elle me l'avait passé en me disant « Faites attention qu'on ne voit pas. » Alors je l'avais déplié et j'avais lu ces mots qu'elle m'avait écrits. « Je vous aime bien. » « Mais au lieu d'écrire des bêtises, » cria-t-elle en se tournant d'un air impétueux et grave vers André et Rosemonde, « il faut que je vous montre la lettre que Gisèle m'a écrite ce matin. » « Je suis folle, je l'ai dans la poche et dire que cela peut nous être si utile. » Gisèle avait cru devoir adresser à son amie, afin qu'elle la communiquât aux autres, la composition qu'elle avait faite pour son certificat d'études. Les craintes d'Albertine sur la difficulté des sujets proposés avaient encore été dépassées par les deux entre lesquels Gisèle avait eu à opter. L'un était « Sophocle écrit des enfers à Racine pour le consoler de l'insuccès d'Athalie. » L'autre « Vous supposerez qu'après la première représentation d'Esther, Madame de Sévigné a écrit à Madame de Lafayette pour lui dire combien elle a regretté son absence. » Or Gisèle, par un excès de zèle qui aurait dû toucher les examinateurs, avait choisi le premier, le plus difficile, de ces deux sujets, et l'avait traité si remarquablement qu'elle avait eu 14 et avait été félicitée par le jury. Elle aurait obtenu la mention très bien si elle n'avait séché dans son examen d'espagnol. La composition dont Gisèle avait envoyé la copie à Albertine nous fut immédiatement lue par celle-ci, car, devant elle-même passer le même examen, elle désirait beaucoup avoir l'avis d'André, beaucoup plus forte qu'elle toute, et qui pouvait lui donner de bons tuyaux. « Elle en a une veine, » dit Albertine. « C'est justement un sujet que lui avait fait piocher ici sa maîtresse de français. » La lettre de Sophocle à Racine, rédigée par Gisèle, commençait ainsi. « Mon cher ami, excusez-moi de vous écrire sans avoir l'honneur d'être personnellement connu de vous, mais votre nouvelle tragédie d'Athalie ne montre-t-elle pas que vous avez particulièrement étudié mes modestes ouvrages? Vous n'avez pas mis de vers que dans la bouche des protagonistes ou personnages principaux du drame, mais vous en avez écrit, et de charmant, permettez-moi de vous le dire sans cajolerie, pour les cœurs qui ne faisaient pas trop mal à ce qu'on dit dans la tragédie grecque, mais qui sont en France une véritable nouveauté. De plus, votre talent, si délié, si fignolé, si charmeur, si fin, si délicat, a atteint une énergie dont je vous félicite. Athalie, Joad, voilà des personnages que votre rival Corneille n'eût pas su mieux charpenter. Les caractères sont virils, l'intrigue est simple et forte. Voilà une tragédie dont l'amour n'est pas le ressort et je vous en fais mes compliments les plus sincères. Les préceptes les plus fameux ne sont pas toujours les plus vrais. Je vous citerai comme exemple. De cette passion, la sensible peinture est pour aller au cœur la route la plus sûre. Vous avez montré que le sentiment religieux dont débordent vos cœurs n'est pas moins capable d'attendrir. Le grand public a pu être dérouté, mais les vrais connaisseurs vous rendent justice. J'ai tenu à vous envoyer toutes mes congratulations, auxquelles je joins, mon cher confrère, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Les yeux d'Albertine n'avaient cessé d'étinceler pendant qu'elle faisait cette lecture. « C'est à croire qu'elle a copié cela !» s'écria-t-elle quand elle eut fini. « Jamais je n'aurais cru Gisèle capable de pondre un devoir pareil. Et ces vers qu'elle cite, où a-t-elle pu aller chiper ça ?» L'admiration d'Albertine, changeant il est vrai d'objet, mais encore accrue, ne cessa pas, ainsi que l'application la plus soutenue, de lui faire sortir les yeux de la tête tout le temps qu'André, consulté comme plus grande et comme plus calée, d'abord parla du devoir de Gisèle avec une certaine ironie, puis avec un air de légèreté qui dissimulait mal un sérieux véritable, refit à sa façon la même lettre. « Ce n'est pas mal, » dit-elle à Albertine. « Mais si j'étais toi, et qu'on me donne le même sujet, ce qui peut arriver, car on le donne très souvent, je ne ferais pas comme cela. Voilà comment je m'y prendrais. D'abord, si j'avais été Gisèle, je ne me serais pas laissé emballer, et j'aurais commencé par écrire sur une feuille à part mon plan. En première ligne, la position de la question et l'exposition du sujet, puis les idées générales à faire entrer dans le développement. Enfin, l'appréciation, le style, la conclusion. Comme cela, en s'inspirant d'un sommaire, on sait où on va. Dès l'exposition du sujet, ou si tu aimes mieux, Titine, puisque c'est une lettre dès l'entrée en matière, Gisèle a gaffé. Écrivant à un homme du XVIIe siècle, Sophocle ne devait pas dire « mon cher ami ». Elle aurait dû en effet lui faire dire « mon cher Racine », s'écria fougueusement Albertine. « Ça aurait été bien mieux. » « Non, » répondit André sur un ton un peu persifleur. « Elle aurait dû mettre « monsieur ». De même, pour finir, elle aurait dû trouver quelque chose comme « souffrez, monsieur, tout au plus cher monsieur, que je vous dise ici les sentiments d'estime avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre serviteur. » D'autre part, Gisèle dit que les cœurs sont dans Athalie une nouveauté. Elle oublie Esther, et deux tragédies peu connues mais qui ont été précisément analysées cette année par le professeur, de sorte que, rien qu'en les citant, comme c'est son dada, on est sûr d'être reçu. Ce sont les Juives de Robert Garnier et l'Amane de Montchrétien. André cita ces deux titres sans parvenir à cacher un sentiment de bienveillante supériorité qui s'exprima dans un sourire assez gracieux d'ailleurs. Albertine n'y tint plus. « André, tu es renversante » s'écria-t-elle. « Tu vas m'écrire ces deux titres-là. Crois-tu, quelle chance si je passais là-dessus. Même à l'oral, je les citerai aussitôt et je ferai un effet bœuf. » Mais dans la suite, chaque fois qu'Albertine demanda à André de lui redire les noms des deux pièces pour qu'elle les inscrivît, l'amie si savante prétendit les avoir oubliées et ne les lui rappela jamais. Ensuite, reprit André sur un ton d'imperceptible dédain à l'égard de camarades plus puérils, mais heureuse pourtant de se faire admirer et attachant à la manière dont elle aurait fait sa composition plus d'importance qu'elle ne voulait le laisser voir, Sophocle aux enfers doit être bien informé. Il doit donc savoir que ce n'est pas devant le grand public, mais devant le roi Soleil et quelques courtisans privilégiés que fut représenté Athalie. Ce que Gisèle dit à ce propos de l'estime des connaisseurs n'est pas mal du tout, mais pourrait être complété. Sophocle, devenu immortel, peut très bien avoir le don de la prophétie et annoncer que selon Voltaire, Athalie ne sera pas seulement le chef-d'œuvre de Racine, mais celui de l'esprit humain. » Albertine buvait toutes ces paroles. Ses prunelles étaient en feu. Et c'est avec l'indignation la plus profonde qu'elle repoussa la proposition de Rosemonde de se mettre à jouer. « Enfin, » dit André du même ton détaché, désinvolte, un peu railleur et assez ardemment convaincu. Si Gisèle avait posément noté d'abord les idées générales qu'elle avait à développer, elle aurait peut-être pensé à ce que j'aurais fait, moi, montrer la différence qu'il y a dans l'inspiration religieuse des chœurs de Sophocle et de ceux de Racine. J'aurais fait faire par Sophocle la remarque que si les chœurs de Racine sont empreints de sentiments religieux comme ceux de la tragédie grecque, pourtant il ne s'agit pas des mêmes dieux. Celui de Joad n'a rien à voir avec celui de Sophocle. Et cela amène tout naturellement, après la fin du développement, la conclusion. Qu'importe que les croyances soient différentes, Sophocle se ferait un scrupule d'insister là-dessus. Il craindrait de blesser les convictions de Racine et, glissant à ce propos quelques mots sur ses maîtres de Port-Royal, il préfère féliciter son émule de l'élévation de son génie poétique. L'admiration et l'attention avaient donné si chaud à Albertine qu'elle suait à grosses gouttes. André gardait le flegme souriant d'un dandy femelle. Il ne serait pas mauvais non plus de citer quelques jugements de critiques célèbres, dit-elle avant qu'on se remît à jouer. Oui, répondit Albertine, on m'a dit cela. Les plus recommandables en général, n'est-ce pas, sont les jugements de Sainte-Beuve et de Merlet. Tu ne te trompes pas absolument, répliqua André, qui se refusa d'ailleurs à lui écrire les deux autres noms malgré les supplications d'Albertine. Merlet et Sainte-Beuve ne font pas mal. Mais il faut surtout citer Deltour et Gasque des Fossés. Pendant ce temps, je songeais à la petite feuille de bloc-notes que m'avait passée Albertine. Je vous aime bien. Et une heure plus tard, tout en descendant les chemins qui ramenaient, un peu trop à pic à mon gré, vers Balbec, je me disais que c'était avec elle que j'aurais mon roman. L'état caractérisé par l'ensemble de signes auxquels nous reconnaissons d'habitude que nous sommes amoureux, tels les ordres que je donnais à l'hôtel de ne m'éveiller pour aucune visite, sauf si c'était celle de l'une ou l'autre de ces jeunes filles, ces battements de cœur en les attendant, quelle que fût celle qui dût venir, et ces jours-là, ma rage si je n'avais pu trouver un coiffeur pour me raser, et devait paraître en lady devant Albertine, Rosemonde ou André, sans doute cet état, renaissant alternativement pour l'une ou l'autre, était aussi différent de ce que nous appelons amour que diffère de la vie humaine celle des zoophytes où l'existence, l'individualité, si l'on peut dire, est répartie entre différents organismes. Mais l'histoire naturelle nous apprend qu'une telle organisation animale est observable, et notre propre vie, pour peu qu'elle soit déjà un peu avancée, n'est pas moins affirmative sur la réalité d'états insoupçonnés de nous autrefois et par lesquels nous devons passer, quitte à les abandonner ensuite. Tel pour moi cet état amoureux divisé simultanément entre plusieurs jeunes filles. Divisé ou plutôt indivis, car le plus souvent ce qui m'était délicieux, différent du reste du monde, ce qui commençait à me devenir cher au point que l'espoir de le retrouver le lendemain était la meilleure joie de ma vie, c'était plutôt tout le groupe de ces jeunes filles, pris dans l'ensemble de ces après-midi sur la falaise, pendant ces heures éventées, sur cette bande d'herbe où étaient posées ces figures, si excitantes pour mon imagination, d'Albertine, de Rosemonde, d'André. Et cela sans que j'eusse pu dire laquelle me rendait ces lieux si précieux, laquelle j'avais le plus envie d'aimer. Au commencement d'un amour comme à sa fin, nous ne sommes pas exclusivement attachés à l'objet de cet amour, mais plutôt le désir d'aimer dont il va procéder, et plus tard le souvenir qu'il laisse, erre voluptueusement dans une zone de charme interchangeable. Charme parfois simplement de nature, de gourmandise, d'habitation, assez harmonique entre eux pour qu'ils ne se sentent auprès d'aucun dépaysé. D'ailleurs, comme devant elle, je n'étais pas encore blasé par l'habitude, j'avais la faculté de les voir, autant dire d'éprouver un étonnement profond chaque fois que je me retrouvais en leur présence. Sans doute, pour une part, cet étonnement tient à ce que l'être nous présente alors une nouvelle face de lui-même. Mais tant est grande la multiplicité de chacun, la richesse des lignes de son visage et de son corps, ligne desquelles si peu se retrouve, aussitôt que nous ne sommes plus auprès de la personne, dans la simplicité arbitraire de notre souvenir, comme la mémoire a choisi telle particularité qui nous a frappés, l'a isolée, l'a exagérée, faisant d'une femme qui nous a paru grande une étude où la longueur de sa taille est démesurée, ou d'une femme qui nous a semblé rose et blonde, une pure harmonie en rose et or, au moment où de nouveau cette femme est près de nous, toutes les autres qualités oubliées qui font équilibre à celle-là nous assaillent dans leur complexité confuse, diminuant la hauteur, noyant le rose, et substituant à ce que nous sommes venus exclusivement chercher d'autres particularités que nous nous rappelons avoir remarquées la première fois et dont nous ne comprenons pas que nous ayons pu si peu nous attendre à les revoir. Nous nous souvenions, nous allions au-devant d'un pan et nous trouvons une pivoine. Et cet étonnement inévitable n'est pas le seul, car à côté de celui-là, il y en a un autre, né de la différence non plus entre les stylisations du souvenir et la réalité, mais entre l'être que nous avons vu la dernière fois et celui qui nous apparaît aujourd'hui sous un autre angle, nous montrant un nouvel aspect. Le visage humain est vraiment comme celui du dieu d'une théogonie orientale, toute une grappe de visages juxtaposés dans des plans différents et qu'on ne voit pas à la fois. Mais pour une grande part, notre étonnement vient surtout de ce que l'être nous présente aussi une même face. Il nous faudrait un si grand effort pour regretter tout ce qui nous a été fourni par ce qui n'est pas nous, fût-ce le goût d'un fruit, qu'à peine l'impression reçue, nous descendons insensiblement la pente du souvenir, et, sans nous en rendre compte, en très peu de temps, nous sommes très loin de ce que nous avons senti. De sorte que chaque nouvelle entrevue est une espèce de redressement qui nous ramène à ce que nous avions bien vu. Nous ne nous en souvenions déjà plus, tant ce qu'on appelle se rappeler un être, c'est en réalité l'oublier. Mais aussi longtemps que nous savons encore voir, au moment où le trait oublié nous apparaît, nous le reconnaissons. Nous sommes obligés de rectifier la ligne déviée. Et ainsi la perpétuelle et féconde surprise qui rendait si salutaire et assouplissant pour moi ces rendez-vous quotidiens avec les belles jeunes filles du bord de la mer était faite tout autant que de découvertes de réminiscences. En ajoutant à cela l'agitation éveillée par ce qu'elles étaient pour moi, qui n'était jamais tout à fait ce que j'avais cru, et qui faisait que l'espérance de la prochaine réunion n'était plus semblable à la précédente espérance, mais au souvenir encore vibrant du dernier entretien, on comprendra que chaque promenade donnait un violent coup de barre à mes pensées, et non pas du tout dans le sens que, dans la solitude de ma chambre, j'avais pu tracer à tête reposée. Cette direction-là était oubliée, abolie, quand je rentrais vibrant comme une ruche des propos qui m'avaient troublé et qui retentissaient longtemps en moi. Chaque être est détruit quand nous cessons de le voir. Puis son apparition suivante est une création nouvelle, différente de celle qui l'a immédiatement précédée, sinon de toutes. Car le minimum de variété qui puisse régner dans ces créations est de deux. Nous souvenant d'un coup d'œil énergique, d'un air hardi, c'est inévitablement la fois suivante par un profil quasi languide, par une sorte de douceur rêveuse, chose négligée par nous dans le précédent souvenir, que nous serons à la prochaine rencontre étonnés, c'est-à-dire presque uniquement frappés. Dans la confrontation de notre souvenir à la réalité nouvelle, c'est cela qui marquera notre déception ou notre surprise, nous apparaîtra comme la retouche de la réalité en nous avertissant que nous nous étions mal rappelés. À son tour, l'aspect la dernière fois négligé du visage, et à cause de cela même le plus saisissant cette fois-ci, le plus réel, le plus rectificatif, deviendra matière à rêverie, à souvenir. C'est un profil langoureux et rond, une expression douce, rêveuse, que nous désirerons revoir. Et alors, de nouveau, la fois suivante, ce qu'il y a de volontaire dans les yeux perçants, dans le nez pointu, dans les lèvres serrées, viendra corriger l'écart entre notre désir et l'objet auquel il a cru correspondre. Bien entendu, cette fidélité aux impressions premières et purement physiques, retrouvées à chaque fois auprès de mes amis, ne concernait pas que les traits de leur visage, puisqu'on a vu que j'étais aussi sensible à leur voix, plus troublante peut-être, car elle n'offre pas seulement les mêmes surfaces singulières et sensuelles que lui, elle fait partie de l'abîme inaccessible qui donne le vertige des baisers sans espoir. Leur voix, pareille au son unique d'un petit instrument où chacune se mettait tout entière et qui n'était qu'à elle. Tracée par une inflexion, telle ligne profonde d'une de ces voix m'étonnait quand je la reconnaissais après l'avoir oubliée. Si bien que les rectifications qu'à chaque rencontre nouvelle j'étais obligée de faire, pour le retour à la parfaite justesse, étaient aussi bien d'un accordeur ou d'un maître de chant que d'un dessinateur. Quant à l'harmonieuse cohésion où se neutralisait depuis quelque temps, par la résistance que chacune apportait à l'expansion des autres, les diverses ondes sentimentales propagées en moi par ces jeunes filles, elle fut rompue en faveur d'Albertine, une après-midi que nous jouions au furet. C'était dans un petit bois sur la falaise. Placée entre deux jeunes filles étrangères à la petite bande, et que celle-ci avait emmenée parce que nous devions être ce jour-là fort nombreux, je regardais avec envie le voisin d'Albertine, un jeune homme, en me disant que si j'avais eu sa place, j'aurais pu toucher les mains de mon ami pendant ces minutes inespérées qui ne reviendraient peut-être pas et eussent pu me conduire très loin. Déjà à lui seul, et même sans les conséquences qu'il eût entraînées sans doute, le contact des mains d'Albertine m'eût été délicieux. Non que je n'eusse jamais vu de plus belles mains que les siennes. Même dans le groupe de ses amis, celle d'André, maigre et bien plus fine, avait comme une vie particulière, docile au commandement de la jeune fille, mais indépendante, et elle s'allongeait souvent devant elle comme de nobles lévriers, avec des paresses, de longs rêves, de brusques étirements d'une phalange, à cause desquels Elstir avait fait plusieurs études de ses mains. Et dans l'une où on voyait André les chauffer devant le feu, elles avaient sous l'éclairage la diaphanéité dorée de deux feuilles d'automne. Mais, plus grasse, les mains d'Albertine cédaient un instant, puis résistaient à la pression de la main qui les serrait, donnant une sensation toute particulière. La pression de la main d'Albertine avait une douceur sensuelle qui était comme en harmonie avec la coloration rose, légèrement mauve de sa peau. Cette pression semblait vous faire pénétrer dans la jeune fille, dans la profondeur de ses sens, comme la sonorité de son rire indécent à la façon d'un roucoulement ou de certains cris. Elle était de ces femmes à qui c'est un si grand plaisir de serrer la main qu'on est reconnaissant à la civilisation d'avoir fait du shake hand un acte permis entre jeunes gens et jeunes filles qui s'abordent. Si les habitudes arbitraires de la politesse avait remplacé la poignée de main par un autre geste, j'eusse tous les jours regardé les mains intangibles d'Albertine avec une curiosité de connaître leur contact, aussi ardente qu'était celle de savoir la saveur de ses joues. Mais dans le plaisir de tenir longtemps ses mains entre les miennes, si j'avais été son voisin au furet, je n'envisageais pas que ce plaisir même. Que d'aveux, de déclarations tues jusqu'ici par timidité, j'aurais pu confier à certaines pressions de main. De son côté, il eût été facile, en répondant par d'autres pressions, de me montrer qu'elle acceptait. Quelle complicité, quel commencement de volupté! Mon amour pouvait faire plus de progrès en quelques minutes passées ainsi à côté d'elle qu'il n'avait fait depuis que je la connaissais. Sentant qu'elle durerait peu, était bientôt à leur fin, car on ne continuerait sans doute pas longtemps ce petit jeu, et qu'une fois qu'il serait fini, ce serait trop tard, je ne tenais pas en place. Je me laissai exprès prendre la bague et une fois au milieu, quand elle passa, je fis semblant de ne pas m'en apercevoir et la suivit des yeux, attendant le moment où elle arriverait dans les mains du voisin d'Albertine, laquelle, riant de toutes ses forces, et dans l'animation et la joie du jeu, était toute rose. « Nous sommes justement dans le bois joli, » me dit André en me désignant les arbres qui nous entouraient, avec un sourire du regard qui n'était que pour moi et semblait passer par-dessus les joueurs, comme si nous deux étions seuls assez intelligents pour nous dédoubler et faire à propos du jeu une remarque d'un caractère poétique. Elle poussa même la délicatesse d'esprit jusqu'à chanter sans en avoir envie. Il a passé par ici, le furet du bois, mesdames, il a passé par ici, le furet du bois joli. Comme les personnes qui ne peuvent aller à Trianon sans y donner une fête Louis XVI, ou qui trouvent piquant de faire chanter un air dans le cadre pour lequel il fut écrit. J'eusse sans doute été au contraire attristée de ne pas trouver du charme à cette réalisation si j'avais eu le loisir d'y penser. Mais mon esprit était bien ailleurs. Joueurs et joueuses commençaient à s'étonner de ma stupidité et que je ne prisse pas la bague. Je regardais Albertine si belle, si indifférente, si gaie, qui, sans le prévoir, allait devenir ma voisine quand enfin j'arrêterais la bague dans les mains qu'il faudrait, grâce à un manège qu'elle ne soupçonnait pas et dont, sans cela, elle se fût irritée. Dans la fièvre du jeu, les longs cheveux d'Albertine s'étaient à demi défaits, et en mèches bouclées tombaient sur ses joues, dont il faisait encore mieux ressortir par leur brune sécheresse la rose carnation. « Vous avez les tresses de Laura Dianti, d'Éléonore de Guyenne et de sa descendante si aimée de Chateaubriand. Vous devriez porter toujours les cheveux un peu tombants, » lui dis-je à l'oreille pour me rapprocher d'elle. Tout d'un coup, la bague passa au voisin d'Albertine. Aussitôt, je m'élançai, lui ouvrit brutalement les mains, saisit la bague. Il fut obligé d'aller à ma place au milieu du cercle et je pris la sienne à côté d'Albertine. Peu de minutes auparavant, j'enviais ce jeune homme quand je voyais ses mains, en glissant sur la ficelle, rencontrer à tout moment celle d'Albertine. Maintenant que mon tour était venu, trop timide pour rechercher, trop ému pour goûter ce contact, je ne sentais plus rien que le battement rapide et douloureux de mon cœur. À un moment, Albertine pencha vers moi d'un air d'intelligence sa figure pleine et rose, faisant ainsi semblant d'avoir la bague, afin de tromper le furet et de l'empêcher de regarder du côté où celle-ci était en train de passer. Je compris tout de suite que c'était à cette ruse que s'appliquaient les sous-entendus du regard d'Albertine, mais je fus troublée en voyant ainsi passer dans ses yeux l'image, purement simulée pour les besoins du jeu, d'un secret, d'une entente qui n'existait pas entre elle et moi, mais qui dès lors me semblèrent possibles et m'eussent été divinement doux. Comme cette pensée m'exaltait, je sentis une légère pression de la main d'Albertine contre la mienne, et son doigt caressant qui se glissait sous mon doigt. Et je vis qu'elle m'adressait en même temps un clin d'œil qu'elle cherchait à rendre imperceptible. D'un seul coup, une foule d'espoirs jusque-là invisibles à moi-même cristallisèrent. Elle profite du jeu pour me faire sentir qu'elle m'aime bien, pensais-je au comble d'une joie d'où je retombais aussitôt quand j'entendis Albertine me dire avec rage « Mais prenez-la donc, voilà une heure que je vous la passe !» Étourdie de chagrin, je lâchai la ficelle. Le furet aperçut la bague, se jeta sur elle. Je dus me remettre au milieu, désespérée, regardant la ronde effrénée qui continuait autour de moi, interpellée par les moqueries de toutes les joueuses, de rire quand j'en avais si peu envie, tandis qu'Albertine ne cessait de dire « On ne joue pas quand on ne veut pas faire attention et pour faire perdre les autres. On ne l'invitera plus les jours où on jouera, André, ou bien moi je ne viendrai pas. » André, supérieur au jeu, et qui chantait son bois joli, que par esprit d'imitation reprenait sans conviction Rosemonde, voulut faire diversion aux reproches d'Albertine en me disant « Nous sommes à deux pas de ces creniers que vous vouliez en voir. Tenez, je vais vous mener jusque-là par un joli chemin pendant que ces folles font les enfants de 8 ans. » comme André était extrêmement gentil avec moi, en route, je lui dis d'Albertine tout ce qui me semblait propre à me faire aimer de celle-ci. Elle me répondit qu'elle aussi l'aimait beaucoup, la trouvait charmante. Pourtant, mes compliments à l'adresse de son amie n'avaient pas l'air de lui faire plaisir. Tout d'un coup, dans le petit chemin creux, je m'arrêtai, touché au cœur par un doux souvenir d'enfance. Je venais de reconnaître, aux feuilles découpées et brillantes qui s'avançaient sur le seuil, un buisson d'aubépines défleuries, hélas, depuis la fin du printemps. Autour de moi flottait une atmosphère d'anciens mois de Marie, d'après-midi du dimanche, de croyances, d'erreurs oubliées. J'aurais voulu la saisir. Je m'arrêtai une seconde et André, avec une divination charmante, me laissa causer un instant avec les feuilles de l'arbuste. Je leur demandai des nouvelles des fleurs. Ces fleurs d'aubépine pareilles à de gaies jeunes filles étourdies, coquettes et pieuses. « Ces demoiselles sont parties depuis déjà longtemps, » me disaient les feuilles. « Et peut-être pensaient-elles que pour le grand ami d'elles que je prétendais être, je ne semblais guère renseignée sur leurs habitudes. » Un grand ami, mais qui ne les avait pas revues depuis tant d'années, malgré ses promesses. Et pourtant, comme Gilberte avait été mon premier amour pour une jeune fille, elles avaient été mon premier amour pour une fleur. « Oui, je sais, elles s'en vont vers la mi-juin, » répondis-je. « Mais cela me fait plaisir de voir l'endroit qu'elles habitaient ici. Elles sont venues me voir à Combray dans ma chambre, amenées par ma mère quand j'étais malade. Et nous nous retrouvions le samedi soir au mois de Marie. Elles peuvent y aller ici. » Oh, naturellement, du reste on tient beaucoup à avoir ces demoiselles à l'église de Saint-Denis-du-Désert, qui est la paroisse la plus voisine. Alors maintenant, pour les voir, oh, pas avant le mois de mai de l'année prochaine. Mais je peux être sûre qu'elles seront là, régulièrement tous les ans. Seulement je ne sais pas si je retrouverai bien la place. Que si, ces demoiselles sont si gaies. Elles ne s'interrompent de rire que pour chanter des cantiques, de sorte qu'il n'y a pas d'erreur possible et que du bout du sentier vous reconnaîtrez leur parfum.